Le samedi 25 août, dans la soirée, Marina enfila une jolie robe bleue et habilla June d'une barboteuse en velours, ornée de fleurs appliquées sur le devant. Lee, l'air revêche, sortit de la chambre vêtue de ce qui devait être son seul costume. Un carcan en lainage d'un comique tout relatif qui ne pouvait avoir été confectionné qu'en Russie. La soirée était chaude et je me suis dit qu'elle allait être trempée de sueur sous peu. Ils descendirent prudemment les marches du porche, la marche branlante n'avait toujours pas été réparée, et se dirigèrent vers l'arrêt du bus. Aussitôt, je suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé jusqu'à l'angle de Mercedes Street et Winscott Road, d'où j'avais vu sur eux, debout près du poteau à bande blanche, en train de se disputer. Pas de grosse surprise. Le bus arriva. Les Oswald montèrent. J'ai suivi, comme j'avais suivi Frank Dunning à Derry. L'histoire se répète est une autre façon de dire que le passé s'harmonise. Ils sont descendus dans un quartier résidentiel du nord de Dallas. Je me suis garé et les ai regardés rejoindre une petite mais magnifique maison de style Tudor en pierre de taille et à colombage. Les lanternes de poste au bout de l'allée luisaient doucement dans le crépuscule. Il n'y avait pas un brin de chien-dent dans cette pelouse. Tout ici proclamait « L'Amérique tourne !» Marina ouvrait la marche, le bébé dans les bras, Lee traînant les pieds dans son sillage, l'air perdu dans son veston croisé qui lui pendait presque jusqu'aux genoux. Poussant Lee devant elle, Marina lui désigna la sonnette. Il la pressa. Peter Gregory et son fils sortirent, et quand June tendit ses petites mains en direction de Paul, le jeune homme se mit à rire et la prit dans ses bras. Lee se renfrogna encore davantage. Un autre homme sortit. Je le reconnus pour l'avoir vu le jour de la première leçon de russe de Paul Gregory et parce qu'il était revenu chez les Oswald 3 ou 4 fois depuis, apportant des provisions, des jouets pour June ou les deux. J'étais pratiquement sûr qu'il s'appelait George Bowie. Oui, encore un George. Le passé a quantité de façons de s'harmoniser. Et bien qu'il eût 60 ans passé, j'avais dans l'idée qu'il en pinçait sérieusement pour Marina. Si j'en croyais le cuistot rapide qui m'avait mis dans le coup, c'était Bowie qui avait persuadé Peter Gregory de lancer l'invitation. George de Morenchild n'était pas là, mais il entendrait parler peu de temps après des Oswald et de leur ménage singulier. C'était encore Bowie qui le rencarderait. Il raconterait aussi à Morenchild que Lee Oswald avait commis un éclat durant la fête, faisant l'éloge du socialisme et des kolkhozes. « Ce jeune homme me paraît fou !» dirait Bowie. Morenchild, qui s'y connaissait de longue date en folie, déciderait qu'il lui fallait rencontrer ce couple étrange en personne. Pourquoi Oswald avait-il pété une durite à la soirée de Peter Gregory, choquant les expatriés bien intentionnés qui, sans ça, auraient pu l'aider ? Je n'en savais rien au juste, mais voilà ce que je soupçonnais. Il y a là Marina, les charmants tous, surtout les hommes, dans sa jolie robe bleue. Il y a là June, jolie comme un cœur dans sa barboteuse de charité fleurie. Et puis il y a Lee, en sueur dans son horrible complet. Il suit mieux les échanges rapides en russe que le jeune Paul Gregory, mais finit par être largué. Devoir faire des courbettes à ces gens et être leur invité a dû le rendre fou. J'espère que ça lui a fait mal. Bien mal. Je n'ai pas lambiné dans le secteur. Mon souci, c'était Morenchild, le maillon suivant de la chaîne. Il monterait bientôt sur scène. Pour le moment, toute la famille Oswald avait enfin déserté le 2703, et ce, au moins jusqu'à 22 heures. Peut-être même plus tard, étant donné que le lendemain était un dimanche. Je suis rentré activer l'écoute dans leur séjour. La fête battait son plein dans Mercedes Street ce samedi soir-là, mais l'arrière-cour des Oswald était silencieuse et déserte. J'imaginais que ma clé ouvrirait la porte de derrière aussi bien que celle de devant, Mais c'est une théorie que je n'ai jamais eu à vérifier car la porte de derrière n'était pas verrouillée. Durant tout le temps que j'ai passé à Fort Worth, je n'ai pas utilisé une seule fois la clé achetée à Ivy Templeton. La vie ne manque pas d'ironie. La maison était d'une propreté à vous fendre le cœur. La chaise haute avait été disposée entre les chaises des parents à la petite table de la cuisine où ils prenaient leur repas, et son plateau essuyé reluisait. Idem pour la surface écaillée de la paillasse et pour l'évier, avec ses traces d'eau calcaire rouillée. Intérieurement, je me suis fait le pari que Marina aurait laissé au mur les dessins qu'avait fait Rosette, et je suis entré dans ce qui était maintenant la chambre de June pour vérifier. J'avais apporté une lampe stylo et je l'ai braquée sur les murs. Oui, les petites filles en robe chasuble étaient toujours là, mais dans l'obscurité, elles ressemblaient plus à des fantômes qu'à de joyeuses luronnes. June devait les regarder, couchée dans son berceau, en sucetant sa totote. Je me suis demandé si elle se souviendrait d'elle plus tard, dans quelques strates profondes de son esprit. Les filles fantômes Crayola. Jimla, ai-je pensé sans raison aucune, et j'ai frissonné. J'ai déplacé le bureau, fixé le fil du micro à la lampe et l'ai fait passer à travers le trou que j'avais percé dans le mur. Parfait. C'est ensuite que je me suis fait une grosse frayeur, très grosse. En repoussant le bureau à sa place, je l'ai heurté contre le mur et la lampe penchée de Pise s'est renversée. Si j'avais eu le temps de penser, je me serais figé et le foutu truc se serait fracassé par terre. Qu'aurais-je fait alors? Retirer le micro et abandonner les morceaux? Espérer qu'ils accepteraient l'idée que la lampe, de toute façon bancale, s'était cassée la figure toute seule? La plupart des gens l'auraient cru. Mais la plupart des gens n'ont aucune raison d'être paranoïaques et de soupçonner le FBI de les surveiller. Lee risquait de repérer le trou dans le mur. Et dans ce cas, le papillon déploierait ses ailes. Mais je n'ai pas eu le temps de penser. J'ai tendu la main et rattrapé la lampe au vol. Puis je suis resté là, à la tenir en tremblant. Il faisait chaud comme dans un four dans cette petite maison et je sentais l'odeur de ma transpiration. La sentirait-il à leur retour? Comment pourrait-il ne pas la sentir? Je me suis demandé si j'étais fou. C'est sûr, le truc le plus intelligent aurait été de retirer le micro et de me retirer moi-même. Je pourrais toujours rattraper Oswald le 10 avril de l'année suivante, le regarder tenter d'assassiner le général Edwin Walker, et s'il était seul, lui régler son compte comme je l'avais fait avec Frank Dunning. Mais fesse, mon vieux, comme ils disent dans les réunions des AA de Christie. Fais simple, mon vieux. Bon Dieu, qu'est-ce qui me prenait de bidouiller avec une lampe de brocante trafiquée quand l'avenir du monde était en jeu? C'est Al Templeton qui m'a répondu.
« Tu es là parce que la fenêtre d'incertitude est toujours ouverte. Tu es là parce que si George de Morenchild est plus que ce qu'il semble être à première vue, alors peut-être qu'Oswald n'est pas celui qu'on croit. Tu es venu ici pour sauver Kennedy et mettre toutes les chances de ton côté. Ça commence ici. Alors remets cette putain de lampe à sa place. »
J'ai remis la lampe à sa place, non sans appréhension compte tenu de son équilibre précaire. Et si Lee la faisait lui-même tomber du bureau et découvrait le micro quand la base en céramique se briserait? Ou si Lee et Morenchild discutaient dans cette pièce, mais avec la lampe éteinte, et en parlant à voix trop basse pour que mon micro longue distance prenne le relais? J'aurais fait tout ça pour rien.
Tu feras jamais une omelette en pensant comme ça, copain.
C'est de penser à Sadie qui m'a fait changer d'avis. Je l'aimais, et elle m'aimait. Du moins, elle m'avait aimé. Et j'avais envoyé tout ça promener pour venir m'enterrer ici, dans cette rue merdique. Et bordel, Je n'allais pas me tirer sans avoir au moins essayé d'entendre ce que George de Morenchild avait à dire pour sa défense. Je me suis glissé au dehors par la porte de derrière et, serrant la lampe stylo entre mes dents, j'ai connecté le fil du micro à celui du magnétophone. J'ai glissé le magnéto dans une boîte de Crisco rouillée pour le protéger de la pluie et caché le tout dans le petit nid de briques et de planches que j'avais déjà préparé à cet effet. Puis je suis retourné dans ma petite maison merdique dans cette petite rue merdique et j'ai commencé à attendre. Il n'allumait jamais la lampe avant qu'il fasse quasiment trop sombre pour y voir. Par souci d'économie, je suppose. Et puis, Lee bossait comme ouvrier. Il se couchait tôt et Marina allait se coucher en même temps que lui. La première fois que j'ai vérifié la bande, j'ai surtout entendu du russe. Et du russe traînant, en plus, à cause de la vitesse d'enregistrement super lente. Si Marina s'essayait à parler anglais, Lee la réprimandait. Cependant, lui-même s'adressait à June en anglais quand le bébé était énervé, et toujours sur un ton bas et apaisant. Parfois, il poussait même la chansonnette pour elle. À cause de la super lenteur de l'enregistrement, on aurait dit à un orque s'essayant à susurrer
« Dodo, l'enfant doux ».
Par deux fois, je l'ai entendu frapper Marina. Et la deuxième fois, il n'eut pas assez de la langue russe pour exprimer sa rage.
« Espèce de connasse ! Sale emmerdeuse ! Je crois bien que ma mère avait vu juste sur toi !»
La pique fut suivie par un claquement de porte et le bruit des pleurs de Marina, brutalement interrompu lorsqu'elle éteignit la lampe. Le soir du 4 septembre, j'ai vu un gamin d'environ 13 ans se présenter à la porte des Oswald avec un sac de toile en bandoulière. Lee, pieds nus, en jeans et t-shirt, lui a ouvert. Ils ont échangé quelques mots. Lee l'a invité à entrer. Ils ont encore parlé. À un moment donné, Lee a pris un livre et l'a montré au gosse qui l'épiait d'un air dubitatif. Impossible pour moi d'utiliser le micro directionnel, car le temps s'était remis au froid et les fenêtres étaient fermées en face. Mais la lampe penchée de Pise était allumée. Et quand j'ai récupéré la deuxième bande, tard le soir suivant, j'ai eu droit à une conversation amusante. À la troisième écoute, c'était à peine si je remarquais encore le rythme traînant des voix. Le gosse vendait des abonnements à un journal, plutôt un magazine, intitulé « Grit ». Il indiqua au Oswald que cette publication contenait toutes sortes de choses intéressantes avec quoi ne s'embêtaient pas les canards new-yorkais. Des « nouvelles du pays », comme il dit. Plus du sport et des conseils de jardinage. Il y avait aussi des pages consacrées à ce qu'il appela des récits de fiction et des bandes dessinées.
« Jamais vous aurez Dixie Degan dans le Times Herald !»
leur assura-t-il.
« Ma maman à moi, elle adore Dixie !»« Ben voyons, fiston, c'est très bien !»
lui déclara Lee.
« Tu as tout du petit homme d'affaires, dis-moi. »«
Oui, monsieur. »
« Dis-moi un peu, combien tu gagnes ?»«
Oh, j'ai que 4 cents tous les 10. Mais c'est pas ça qui compte, monsieur. Moi, ce que j'aime, c'est les prix qu'on remporte. Ils sont rudement mieux que ceux qui vous refilent quand vous vendez du Cloverine Salve, de la Camelot. Moi, je vais me gagner une 22. Mon père m'a dit que je pourrais l'avoir. »«
Fils, tu sais que tu te fais exploiter. » »«
Hein ?»
À eux les dollars, à toi les cents, et la promesse d'une carabine.
Lee, garçon gentil,
dit Marina.
Tu laisses tranquille, il gentil.
Lee fit la sourde oreille.
Tu dois apprendre ce qu'il y a dans ce livre, fiston. Tu peux me lire ce qu'il y a écrit sur la couverture?
Ah oui, monsieur. Il y a écrit « La condition de la classe ouvrière » par Friedrich Engels.
Il raconte ce qui arrive aux garçons qui pensent qu'ils vont finir millionnaires en faisant du porte-à-porte.
« Je veux pas être millionnaire !»
se défendit le gosse.
« Je veux juste une 22 pour pouvoir dézinguer les rats à la décharge comme mon copain Hank. » « Tu gagnes 3 sous en vendant leur paplard. Ils encaissent les dollars en vendant ta sueur et la sueur 1 million d'autres gamins comme toi. Le marché libre n'a rien de libre. Tu dois faire ton éducation, fiston, comme je me la suis faite. Et j'ai commencé quand j'avais exactement ton âge. »
Lee gratifia alors le petit colporteur de Grit d'une conférence de 10 minutes sur les maux du capitalisme, avec citation de Karl Marx à l'appui. Le gosse écouta patiemment, puis demanda
« Alors, vous allez me prendre un abonnement ?»«
Fils, as-tu bien écouté ce que je t'ai dit ?»«
Oui, monsieur. »«
Ensuite, tu dois savoir que ce système m'a volé, moi aussi, comme il te vole et comme il vole ta famille. »«
Vous êtes fauché ? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ?»
Ce que j'ai essayé de t'expliquer, c'est pourquoi je suis fauché.
Oh ben, crotte alors. J'aurais pu faire 3 maisons de plus. Mais maintenant, faut que je rentre chez moi parce que c'est presque l'heure du couvre-feu.
Bonne chance,
lui dit Marina. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant sur ses vieux gonds, puis se referma en tremblant, trop fatigué pour claquer. Il y eut un long silence. Puis Lee déclara d'une voix atone
« Tu vois contre quoi on doit se battre ?»
Peu après, la lampe s'éteignit.